si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
حال این شما و این سرگذشت برادران امیدوار.
Et maintenant, les aventures des frères Omidvar.
Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour à tous et bienvenue à vous, chers auditeurs, pour cette nouvelle saison de Si loin, si proche. On est très heureuse de vous retrouver, Laure et moi-même, après une pause estivale, avec cette semaine, pour compagnons de route, les frères Omidvar. Deux aventuriers du genre pas banal, partis à l'après-guerre de leur Iran natal pour un improbable tour du monde sur près de 100 pays et pendant 10 ans. De nos jours, leur fabuleuse odyssée est surtout connue des Iraniens et des voyageurs qui, à Téhéran, ont croisé leur chemin, peut-être dans le musée qui leur est consacré. Mais dans le monde francophone, Issa et Abdullah Omidvar demeurent de parfaits inconnus, ou presque. Pourtant, à l'été 1954, les frères Omidvar vont enfourcher leur moto matchless et tracer un chemin de liberté, de fraternité à nul autre pareil. Sur les chemins sinueux du Tibet, les routes sablonneuses de l'Australie ou encore les pistes africaines. Sur le garde-boue de leur moto, Issa et Abdullah avaient inscrit « All different, all relative » en anglais, soit en français « Tous différents, mais tous proches ». Un slogan, une philosophie qui forcément nous parle à Si loin, si proche. Alors aujourd'hui, on est ravis de leur accorder à ces deux frères toute la place et la lumière qu'ils méritent à l'occasion de la parution aux éditions Nivikata pour la première fois en français du journal de bord au récit de voyage des frères Omidvar. Une publication que l'on doit à Jean-Louis Osvat, un français passionné d'Iran et notre invité cette semaine. Enfin, cette émission aura des allures d'hommage puisqu'à l'été 2022, cet été, Abdullah Omidvar nous a quittés à l'âge de 90 ans, alors Issa est encore là pour témoigner. Et surtout, il y a les mots des frères Omidvar, leurs images, leurs récits qui continuent de nous embarquer et nous alerter. Iran, août 1954, le road trip peut commencer.
Nous roulons en direction de la frontière afghane. La route nous semble interminable. Peu à peu, la piste disparaît sous le sable. Il reste encore 15 km à parcourir. Épuisés, nous restons concentrés pour garder le contrôle de nos engins lourdement chargés qui ne demandent qu'à se dérober sous nos jambes. À bout de force, nous atteignons la limite orientale de l'Iran. Nous nous agenouillons, tous les deux, pour embrasser, peut-être pour la dernière fois, le sol de notre mère patrie. Les douaniers iraniens et puis afghans nous accueillent avec bonhomie. Où comptez-vous aller comme cela avec vos motos ? Jusqu'au bout du monde ! La réplique d'Abdullah laisse les douaniers mi-amusés, mi-incrédules. Sérieusement, nous partons pour plusieurs années. Nous voulons traverser toute l'Asie, l'Amérique, l'Europe. Nous voulons partir à la rencontre des peuples premiers du monde entier et étudier leur mode de vie. Je montre mon équipement photo et notre caméra. Et en ramener plein de témoignages, des images, des films pour exposer tout cela à notre retour.
Jean-Louis Ozad, bonjour.
Bonjour Céline.
Alors c'est à la frontière de l'Iran et de l'Afghanistan que débute l'odyssée des frères Omidvar dont on va parler, mais aussi cette émission. Avec leurs mots donc, qu'on vient d'entendre, qui sont pleins d'élan, forcément à l'aune de leur grand voyage. Des mots, un récit qui sont aujourd'hui portés à la connaissance du monde francophone, grâce à vous, en quelque sorte, j'ai envie de dire. Et forcément se pose la question en préambule, avant de parler de tout ce grand voyage et de leur récit aussi, pourquoi avoir décidé de cette adaptation, de ce récit de voyage qui est paru en Iran, en persan au départ, dans les années 70-80, édité ensuite en anglais, mais jamais en français? Pourquoi avoir décidé de cette adaptation ?
Pour moi, c'est devenu une évidence suite à deux événements. Le premier événement, c'est une visite que j'avais effectuée avec mon épouse dans le parc de Saadabad à Téhéran. Saadabad, c'est un petit peu le Versailles téhéranais. C'était le palais d'été du Shah. Et ce palais, qui est à flanc de colline, regroupe plusieurs pavillons, des bâtiments impériaux. On le visitait avec mon épouse et complètement par hasard, on a vu un panneau, musée des frères Omidvar. Nous sommes approchés Et là, il y avait deux chevaux, une moto, juste devant le bâtiment.
Exposé à l'extérieur.
Exposé à l'extérieur, avec ce que vous évoquiez, ce terme, en persan, on dit « Hame Motefavet », »,« Hame Rishavand », qui veut dire « tous différents, peut-être tous frères, tous d'une même famille ». Donc, on a été surpris, et nous sommes rentrés dans le musée, on a poussé la porte du musée, et là, j'ai vu au mur des photos noir et blanc, qui vraiment, moi, m'ont beaucoup touché. Pendant toute mon enfance, j'avais dans ma bibliothèque les livres de la collection Terre humaine, les livres de Jean Mallory, de Claude Lévi-Strauss, et je voyais devant moi ces deux hommes au milieu des tribus amazoniennes, dans le Grand Nord, en train d'essayer de pêcher le phoque, plus quelques photos très original. Ils sont en train de filmer, par exemple, la Mecque. J'apprendrai plus tard que c'était les premiers hommes qui ont fait un documentaire filmé à la Mecque. Ils avaient eu l'autorisation de tourner le pèlerinage devant la Kaaba. Donc, des choses très étonnantes. Plus quelques objets, des objets ramenés de leur voyage. On va trouver des parures indiennes, des étoffes, des bijoux tibétains, des objets du quotidien, des Inuits. Donc voilà, une visite du musée vraiment fabuleuse. Moi, j'avais pris mon appareil photo, je m'en souviens très bien, j'ai presque tout photographié. Donc une visite que j'avais gardée en mémoire. Quelques mois plus tard, un ami de mon épouse vient dîner à la maison et au cours de la conversation, il me dit « Jean-Louis, tu es un fan de voyage, vraiment tu adores ça, il faut absolument que tu rencontres un voyageur fabuleux qui a voyagé dans le monde entier. » Le père de cet ami, en fait, était consul à Rio de Janeiro, consul iranien, dans les années 50-60. Ils avaient sympathisé, étaient devenus amis et avaient gardé des liens depuis cette époque-là. Donc, j'avoue que j'étais un petit peu sceptique. Voyager dans le monde entier, bon, c'est un peu une simplification. Et je lui demande, bon, comment il s'appelle? Il me dit Omidvar. Et évidemment, je fais le lien avec la visite du musée. Je n'avais pas imaginé un instant que ces hommes qui avaient voyagé dans les années 50 pouvaient être encore vivants. Il me dit, oui, il est vivant, son frère aussi est vivant, Abdullah au Chili.
Lui, ça, c'était quand, excusez-moi? C'était dans les années 2000?
Cette visite, il y a une dizaine d'années. Donc, du coup, je me dis, il faut absolument rencontrer Issa Omidvar. Pour moi, c'est vraiment comme un signe. J'adore cette histoire. Il est encore vivant, il faut le rencontrer. Donc, avec mon épouse, on organise un rendez-vous. Nous allons déjeuner dans un restaurant traditionnel iranien. Et là, c'est la rencontre avec Issa Omidvar qui m'explique son voyage, qui me fait visiter ensuite son musée. Je ne savais pas qu'à l'époque, il donnait encore des conférences dans son musée où il accueille les jeunes générations. Et je lui dis, votre livre, il est fantastique, il faut faire quelque chose. Il me dit justement, je viens de sortir un livre en anglais. Il me dit, tout est dans le livre. Donc, j'ai commencé à étudier le livre. Tout est dans le livre. En même temps, il y a cette espèce de pudeur persane qui fait que il va pas tout dévoiler. Il y a des éléments pédagogiques qui sont très développés, mais en revanche, des choses qui moi me passionnaient. Leur rencontre, par exemple, avec Nehru, le premier ministre indien, c'était traité d'une seule phrase en disant j'en avais besoin d'un visa. On a rencontré Nehru, il nous a donné un visa. Quand je dis j'ai besoin d'un visa, je ne vais pas rencontrer le Premier ministre de l'Inde. Et donc, petit à petit, en établissant des liens d'amitié, j'ai pu en savoir plus sur leur voyage et avoir plus de détails.
Sachant qu'en fait, on parle quand même de deux hommes explorateurs, pionniers à leur manière, en tout cas en Iran, ça c'est sûr, qui ne sont pas du tout connus, je le disais en préambule. Quand on cherche en ligne, dans l'espace francophone en tout cas, on trouve pas tellement d'informations sur cette épopée, en dehors peut-être des occurrences liées à votre livre aujourd'hui, à cette adaptation de leur récit de voyage. Il n'y a aussi pas de page Wikipédia, par exemple, sur les frères Omidvar. Et puis aussi, on a cherché, il n'y a pas de traces sonores dans les archives de la radio publique française. Alors, on va tout de suite y remédier, avec ce petit cadeau d'ailleurs que vous nous avez ramené dans vos valises, Jean-Louis Osvat, de Téhéran, où vous étiez cet été.
Bonjour. Radio France Internationale. Je suis Issa Omidvar, iranien. من یکی از برادران امیدوار هستم که مدت 10 سال و چند ماه سفر جهانیمون رو.
Je suis l'un des frères Omidvar. Pendant 10 ans et quelques mois, nous avons parcouru ensemble la planète pour un véritable tour du monde. Notre objectif était d'étudier la vie des peuples premiers et des différentes tribus de cette terre. Par exemple, en Amérique du Sud et particulièrement en Amazonie, nous avons consacré 6 mois à observer la vie de différentes tribus. Nous avons aussi passé 3 années en Afrique à côtoyer les autochtones. Nous sommes même allés jusqu'au pôle Nord. Pendant 4 mois et demi, presque 5 mois, nous avons vécu auprès des Inuits, dans des conditions extrêmement difficiles, par moins 60, voire moins 70 degrés. Mais leur été y était comme notre hiver. Nous avons fait beaucoup d'observations, mais je ne peux pas résumer tout cela en seulement 2 minutes.
Alors c'est sûr que 2 minutes ne suffiront pas à résumer autant d'années passées sur les routes, mais on va quand même leur accorder ici une bonne quarantaine de minutes avec vous, Jean-Louis Hosvat. Et j'aimerais, avant de repartir au sujet de ce grand voyage sur tous les continents du monde, j'aimerais peut-être avec vous interroger l'origine, on va dire, de ce grand voyage dont a parlé Issa, qui les a emmenés. Il a parlé du pôle Nord, de l'Amazonie, de l'Afrique, sur des temps aussi extrêmement longs, hein, on l'a entendu, 6 mois, 3 ans, etc. Qu'est-ce qui a fait que ces deux frères, tous les deux, ont décidé de se lancer comme ça, après-guerre, sur les routes du monde?
En interrogeant Abdullah et Issa, c'est revenu à leur mémoire une anecdote. Quand ils étaient enfants, leur père dirigeait une entreprise textile. Hein, ils étaient une fratrie assez importante de 6 enfants. Ce sont les 2 derniers. Et leur père adorait la lecture du journal. Donc un soir, il rentre, il lit le journal et les 2 enfants le voient un petit peu étonné. Et leur père leur dit « C'est étonnant, les Tibétains, ils viennent de désigner leur nouveau dieu. Ils ont montré des vêtements à un jeune de 3 ans. Il a choisi les bons vêtements. C'est lui le nouveau dieu, le nouveau Dalai Lama. » Et Abdullah, qui avait 5 ans à l'époque, dit « Mais je comprends pas. Il n'y a qu'un seul dieu. » On ne peut pas trouver un autre dieu. Et leur père a laissé les enfants réfléchir et il a attendu la veillée pour leur expliquer, alors qu'ils étaient allongés sur le toit terrasse de leur maison, leur dire « Regardez les étoiles. Au-delà de ces étoiles, il y a des montagnes, il y a d'autres pays. Notre monde à nous, c'est pas le seul monde. Il y a d'autres mondes. Et dans ces autres mondes, les gens, ils s'habillent différemment, ils parlent une autre langue, ils dansent différemment et ils croient dans d'autres dieux. » On imagine ces 2 enfants, hein, qui avaient donc 5 ans, 7 ans, ces paroles ont été quelque chose de magique et leur ont donné envie de découvrir le monde.
Et puis aussi de gravir les montagnes aussi, avant d'aller au-delà des montagnes, puisque Issa lui était féru d'alpinisme, ils se sont mis aussi au vélo, parce qu'ils ont fait 4 mois pour l'un, Issa, de traverser à travers la Turquie, la Syrie, l'Irak. Abdullah lui a fait le tour de l'Iran à vélo aussi. Donc il y avait aussi une appétence pour l'aventure.
Exactement. Issa va être l'un des plus jeunes, à 18 ans, à franchir la face nord du Damavand. Hein. Le Damavand, c'est 5600 mètres, la face dite des glaciers, donc un véritable exploit sportif. Il emmène son frère dans ces aventures-là. Et de l'alpinisme, ils vont aussi passer à la spéléologie, ils vont explorer des grottes. Et en explorant des grottes, ils vont commencer à trouver des fragments humains, des morceaux de céramique de peuples anciens. Et tout cela va les intriguer et confirmer leur volonté de faire autre chose dans leur vie.
Et donc finalement, ce sont sur 2 motos, les fameuses matchless, qu'ils décident d'embarquer pour ce grand tour du monde, sachant qu'avant, ils s'étaient préparés 3 ans, ce sur quoi ils insistent d'ailleurs, parce que ce voyage, c'est pas seulement traverser les pays pour dire qu'on est passé par là, mais c'est vraiment un voyage érudit, quasi ethnographique.
C'est ça, c'est très clair et quand on leur demande, il ne s'agit pas d'aller à l'aventure juste avec un sac à dos. Voilà, c'est pas l'aventure pour l'aventure. Non, pour eux, il s'agit d'aller étudier les peuples de la planète. Il s'agit d'en ramener des témoignages, des films, des photos. Ils sont passionnés par toutes ces nouvelles technologies. Il y a un petit peu la même démarche qu'on trouve chez un Albert Kahn au début du siècle en France, avec ce qu'il a appelé les archives de la planète. Il y a ce côté, on va faire le tour de la planète.
Le monde.
C'est ça.
Le recenser et puis le renseigner.
C'est exactement ça. D'aller de façon, avec une approche, on peut dire scientifique, hein, juste filmer, noter et puis de ramener ça en Iran.
Mais parce que vous l'avez dit, on est aussi à cette époque où, en dehors des frontières, en l'occurrence là de l'Iran, mais comme ailleurs, d'un pays, le monde en dehors est inconnu. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi dans leur récit, quand on les suit, cette idée aussi d'un âge d'or un peu du voyage.
C'est évident. Âge d'or aussi dans l'accueil hein, qui leur est réservé. On demande souvent, voilà, mais comment ils finançaient leur voyage ? Et on s'aperçoit que bien souvent, ils sont invités.
Parce qu'ils sont partis avec 90 dollars en poche, c'est tout.
Voilà, alors ça c'est un peu la légende, mais on va dire ça. Voilà, on va garder ça. Mais ceci étant, au fur et à mesure de leur voyage, toute la partie en Asie, très souvent, ils sont, on leur offre le gîte, le couvert. Donc on voit bien, quand vous parliez oui, âge d'or du voyage, un rapport qui était différent, une curiosité, et puis la capacité pour eux à aller rencontrer ce qu'on peut appeler un peu des grands de ce monde. Hein.
Tout à fait, j'allais en parler, parce que c'est vrai que chemin faisant, alors ils partent de Téhéran, traversent l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, etc. etc. Et chemin faisant, c'est vrai qu'ils rencontrent quand même les grands de ce monde. Et notamment, et vous l'avez dit, en Inde, il rencontre quand même le grand artisan de l'indépendance indienne, donc le Pandit Nehru. Et il y a cette image, et il le raconte dans le livre, en tout cas c'est ce que vous êtes allé chercher, cette scène où finalement il se retrouve avec ce grand homme autour de la poésie et de poèmes d'Omar Khayyam.
Oui, parce qu'ils ont un recueil d'Omar Khayyam avec eux. De la même façon, ils ont quelques photos des quelques objets iraniens. Ils montrent ce recueil de poèmes et Nehru commence à lire le poème en persan. Donc on imagine ces deux jeunes qui sont...
Qui ont une vingtaine d'années,
devant ce grand homme qui se met à déclamer Omar Khayyam en langue persane. Donc voilà, un grand moment d'émotion. Il leur explique que lui est persanophone, qu'il a un ministre de la culture très épris de culture persane. Il va jusqu'à leur dire... Dans ce que vous faites, vous êtes les vrais ambassadeurs de ce monde, les vrais ambassadeurs de paix. Et je trouve voilà, cette phrase très belle et cet encouragement magnifique voilà, venant de Nehru.
Sachant qu'il n'y a pas que les riches et les puissants qui vont jalonner leur voyage, au contraire. Et vous l'avez dit, les frères Omidvar ont à cœur d'étudier, de rencontrer les peuples premiers. À l'époque, ils disaient primitifs, à commencer par les aborigènes d'Australie. Deuxième extrait du voyage des frères Omidvar paru récemment aux éditions Nivikata.
Nous voguons allègrement sur les mers de l'hémisphère sud. Pour nous et pour tous nos compagnons de voyage, c'est une première. Depuis hier, la mer est démontée et chacun essaye de s'en accommoder. L'expérience nous a appris que le mieux est encore de dormir sur le dos. Le pays qui va bientôt s'ouvrir à nous est gigantesque. Et si l'on englobe la Tasmanie et la partie orientale de la Nouvelle-Guinée, c'est un pays aussi vaste que les États-Unis d'Amérique. Quand Cook a posé le pied sur l'île continent, on estime qu'il y avait environ 3 millions d'aborigènes. Ils ne sont plus que 10 000 aujourd'hui. Les premiers colons, eux, en provenance d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse, étaient des prisonniers, certains des criminels, et d'autres des fils de famille répudiés par la bonne aristocratie britannique. On dit même que certaines familles étaient tellement impatientes de se débarrasser de leurs rejetons que tous les frais étaient pris en charge. Et c'est ainsi que le peuplement s'est radicalement transformé et que l'Australie moderne s'est façonnée.
Déconstruire l'histoire de la colonisation et du peuplement, c'est une des approches, Jean-Louis Osfat, assez pionnière quand même, il faut le reconnaître, pour leur époque, des frères Omidvar, on vient de l'entendre. Et c'est vrai qu'en les suivant dans leur récit, on perçoit dans leurs mots, dans leur voyage aussi, la façon dont ils en parlent et ils se positionnent dans leur approche. On a l'impression qu'ils ont une approche peut-être pas décoloniale, mais en tout cas jamais coloniale ou supérieure.
Oui, et puis un regard, un décalage qui leur permet peut-être de voir des choses qu'en tant qu'Européen, on verrait moins directement.
Parce qu'ils sont iraniens peut-être aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait, le rapport à la religion, ils ont des mots très durs sur les
l'évangélisation des peuples premiers.
Oui, exactement, que ce soit dans le Grand Nord ou en Amérique latine, il y a des mots assez durs, hein. il y a des descriptions assez sévères. Hein. Il y a aussi sur la dimension surpopulation, surexploitation de la planète, il y a des choses intéressantes. Ils citent beaucoup un livre de Fairfield Osborne, La Terre au pillage, qui a inspiré un peu toute l'approche d'écologie. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 50-60. Hein. Il y a des éléments qui, encore aujourd'hui, nous paraissent vraiment modernes par rapport aux préoccupations qui nous semblent tellement évidentes aujourd'hui.
Sachant qu'en débarquant en Australie, ils vont à la rencontre des aborigènes après quelques péripéties dans le sable, notamment avec leur moto. Oui. Et on sent qu'au contact de cette population, ils sont à la fois, ils le disent, en respect total pour ce peuple millénaire, mais décimés aussi, puisqu'on l'a entendu, ils sont effectivement très peu aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient à l'origine, de fait. Et en même temps, on sent qu'ils sont aussi un peu naïfs dans leur élan vis-à-vis de ce peuple, et qui ne savent pas trop comment les aborder.
C'est vrai, et on va voir d'ailleurs au fur et à mesure de leur aventure une progression dans leur approche des peuples premiers. Là, il y a des choses qu'effectivement ils ne détectent pas. Le fait, par exemple, qu'il n'y a pas vraiment d'agriculture chez les aborigènes, en fait, c'est quelque chose qui a été désappris par les aborigènes du fait de la colonisation. C'était un peuple qui, il y a quelques centaines d'années, était tout à fait capable d'exploiter la terre. Donc ça, ils le détectent pas. Effectivement, ils ont un rapport encore assez naïf. Hein. Ils découvrent, ils commencent à initier, je dirais, leur approche scientifique. Hein. On est un peu au balbutiement, c'est vrai.
Alors approche scientifique, mais aussi approche cinématographique, puisque c'est en Australie qu'ils vont acheter la caméra, disent-ils, des aventuriers, la fameuse Bolex 16 mm. Et puis aussi en chemin, ils collectent du son, extrait d'une musique aborigène enregistrée en Australie en 1955 par les frères Omidvar. Après l'Océanie, on va continuer de suivre l'épopée sur RFI et Si loin si proche des frères Omidvar, toujours en votre compagnie Jean-Louis Osvat, vous qui avez adapté en français leur récit de voyage, un voyage qui va les emmener pendant 10 ans d'un continent à l'autre. Donc un continent, l'Océanie, il y a un détour après par l'Asie orientale, et voilà Issa et Abdullah Omidvar en Amérique, quasiment 2 ans après leur départ de Téhéran. Au départ en Alaska, où ils deviennent quand même chercheurs d'or. Et puis après au Canada, dans la baie d'Hudson.
Donc,
c'est assez impensable quand même de se dire que ces hommes aussi, parce qu'ils n'ont pas de quoi financer leur voyage, donc en fait ils vont travailler aussi en même temps qu'ils voyagent.
Avec vraiment une capacité d'adaptation incroyable. Ils visitent une mine d'or en Alaska et pendant la visite de cette mine d'or, ils disent « Ah, oh, on aimerait rencontrer les Esquimaux, faut aller très loin, on a entendu dire, il faut prendre un avion. » Et le directeur de la mine d'or, un Américain, on leur dit de façon très anglo-saxonne, « Eh bien, si vous voulez prendre l'avion et que vous avez besoin d'argent, travaillez quelques semaines avec moi. Moi, j'ai besoin de bras dans ma mine d'or et vous allez voir, vous allez pouvoir ramasser quelques dollars. » Et donc, du coup, les voilà transformés en chercheurs d'or en Alaska. Et munis de ce pactole, ils vont effectivement pouvoir laisser leur moto, prendre un avion et arriver dans la baie d'Hudson, donc là au plus proche des Inuits. Hein, ils montent jusqu'au 65e parallèle, hein, vers Chesterfield, où là on est vraiment au milieu des Inuits caribous, dans la réalité du Grand Nord.
Et ils vont partager leur quotidien, un temps long aussi, riche d'enseignements pour les frères Omidvar.
در این منطقه وسیع که بیش از 8 میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد فقط 10000 اسکیمو در گوشه و کنار زندگی میکنند.
La région s'étend sur plus de 8 millions de kilomètres carrés et seulement 10 000 Esquimaux vivent ici. Ils sont les seuls à avoir vécu dans ces contrées gelées depuis des siècles, ce qui fait qu'ils n'ont pas à se disputer la terre.
این سورتمه ها به جان اسکیموها بست است.
Les traîneaux sont indispensables pour les Esquimaux. En hiver, ils s'en servent pour se déplacer sur le sol gelé. Les chiens sont leurs meilleurs compagnons. Chaque chien peut traîner jusqu'à 100 kilos sans s'épuiser.
این خانه ها که به دست پرقدرت اسکیمو ها از برف ساخته میشه ایگلو نام داره.
Ces maisons de glace, construites par les mains solides des Esquimaux, s'appellent igloos. Après avoir vécu 2 mois dans un igloo, il faut en reconstruire un nouveau. Alors, quand les Esquimaux ont trouvé le bon endroit, ils s'arment d'un couteau, découpent la glace et bâtissent des murs depuis l'intérieur. Combien de temps pensez-vous que cela prend de construire une telle maison? 3 mois? 6 mois? 1 an? Eh bien non. Cela prend seulement 1 heure pour bâtir un igloo moyen fait de 40 à 50 blocs de glace. C'est une jolie maison construite en un temps record.
Alors dans cet extrait d'un des films des frères Omidvar, Jean-Louis Ozvat, on perçoit bien la volonté qu'ont les deux frères d'expliquer, de partager avec le grand public ces réalités à l'époque complètement méconnues, comme la vie en igloo finalement. Ce qui paraît alors quand on l'entend aujourd'hui un peu daté finalement. Et même dans leur récit des fois où ils expliquent le kayak, l'igloo, les chiens de traîneau, parce qu'aujourd'hui on connaît bien mieux toutes ces réalités-là. Par contre, ce qui est moins daté, je trouve, dans leur récit, c'est aussi quand ils se mettent à raconter l'intimité qu'ils partagent avec les Inuits du Grand Nord, qu'ils appellent à l'époque Esquimaux, puisque c'était l'exonyme qu'on utilisait justement à ce moment-là, dans les années 50-60. Et c'est vrai que c'est là, à ce moment-là, qu'apparaissent aussi des prénoms. Qu'on sent qu'ils rencontrent vraiment non plus seulement des personnalités, des gens de passage, mais vraiment qu'ils passent du temps avec des gens qu'ils connaissent. Et donc, c'est là qu'ils rencontrent Amlok et sa famille.
Oui, ils sont passés d'observateurs à vraiment partie prenante. Ils intègrent cette famille, ce que Jean Mallory appelle la famille de glace. Donc on va retrouver la même chose, le quotidien, les choses toutes simples, comment on mange le soir, comment on essaie de partager un repas, comment on se colle les uns aux autres.
Comment on survit par moins 60 quand même.
On survit, ouais.
Parce qu'il y a de ça. C'est vrai que là, on a 2 Iraniens qui ne connaissent pas du tout ces réalités-là, qui dans leur récit justement se demandent s'ils ne vont pas tout d'un coup non seulement s'ennuyer, mais peut-être même se perdre dans ces immensités blanches.
Oui, et puis ça a failli arriver. À un moment donné, Abdullah perd un gant alors qu'ils sont en pleine scène de chasse. Ils ont failli perdre Abdullah et une partie de l'équipage. Donc on est dans un monde effectivement de survie. Il y a quelques récits qui sont très durs où dans la nuit du Grand Nord, si quelqu'un se perd, on ne va pas à sa recherche parce qu'on sait que c'est peine perdue. Donc ils vivent ça. Effectivement, ils gagnent la confiance d'Amlok, des siens. Amlok qui leur expliquera d'ailleurs que le terme Esquimaux n'est pas juste, qu'on doit les appeler les Inuits, qui veut dire finalement les hommes normaux pour le peuple.
Les hommes justes et ordinaires.
Exactement. Voilà. Donc, il y a des moments vraiment, vraiment touchants de proximité avec le peuple inuit.
Sachant qu'on sent que c'est ce que vont chercher les frères Omidvar, et en même temps, ils cherchent aussi à comprendre comment on vit ailleurs. Et c'est vrai qu'on se demande, est-ce que c'est réellement scientifique? Est-ce que c'est du voyage curieux et un peu érudit? À quoi ça correspond finalement?
Pour eux, on ne peut pas parler d'une démarche scientifique comme auraient eu des gens comme un Claude Lévi-Strauss quand il va en Amazonie. Ce n'est pas aussi structuré. Il y a quelques prises de notes.
C'est le mot structuré avec Lévi-Strauss, justement,
c'est ça,
avec le structuralisme.
Exactement. Donc, il y a effectivement un peu de prises de notes, mais il y a surtout la volonté de ramener des témoignages visuels. Je pense que c'est surtout par ça, parce qu'on évoquait, ou les prises de son que vous avez recueillies. Donc, on est plutôt dans cette expérience-là, et d'aller au bout de l'expérience. Je crois que ce qui est intéressant dans leur façon de voyager, quand on observe ce qu'ils ont fait, c'est le temps, la lenteur. Aller passer plusieurs mois, 4 à 5 mois dans le Grand Nord, 6 mois en Amazonie, c'est-à-dire ils prennent le temps. Alors c'est vrai qu'au bout de 4 à 5 mois, on pourra attendre un ouvrage complet sur la vie des Inuits. Ils n'ont pas fait ça. Mais en revanche, ils ont pris le temps d'aller au fond des choses pour eux-mêmes aussi.
Alors justement, vous avez parlé de l'Amazonie, après le Grand Nord. Alors on va faire aussi nous-mêmes un grand saut. Issa et Abdoula vont traverser les États-Unis, ils vont longer les côtes, ils vont aussi emprunter après cette épine dorsale qui est la panaméricaine pour rejoindre l'Amérique centrale. Et ils vont abandonner justement leur moto, pour un temps en tout cas, et pénétrer en pirogue dans la jungle amazonienne. Et là, c'est vrai que le récit alors oscille un peu entre une petite mise en scène de l'enfer vert, de ses dangers, mais qui, je pense très certainement, même ils ont dû vous le dire, ils le racontent dans leur récit, qu'ils étaient réels quand même, ces dangers. Donc ça oscille entre cette mise en scène-là et en même temps entre une fascination sincère de tous ces peuples qui vont aller rencontrer les Tucano, les Yaga. Il y a aussi les Jivaro, alors qu'on peut appeler aujourd'hui Chouar aujourd'hui. Ouais. Et on sent que les frères Midvar, là, ils plongent complètement dans l'inconnu, total. Et que c'est un décentrement complet.
Oui. Ils avaient fait pourtant une préparation assez longue. Ils sont restés à Bogota pendant 3 mois pour préparer leur voyage. Alors peut-être là, justement, en lisant des récits d'aventuriers, ils ont vu le côté terrifiant que pouvait avoir ce que vous avez dénommé l'enfer vert. Mais c'est vrai qu'ils font ces 3 mois de préparation, mais après ils sont plongés totalement en Amazonie avec le sentiment que les choses peuvent basculer très vite. Dans leur récit, ils racontent à plusieurs reprises comment les célébrations, les fêtes de baptême peuvent tourner de façon complètement incontrôlable. C'est-à-dire que les gens boivent cette espèce de bière qu'ils ont fait fermenter.
La chicha locale.
Ils dansent, toute la population du village est prise de transe et ça se termine au petit matin et on ne sait jamais. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'un regard? Est-ce que d'un seul coup, s'il commet une maladresse, comment les choses peuvent évoluer?
En même temps, ils sont accueillis pourtant.
Oui.
Et plutôt, alors je ne sais pas si on peut dire chaleureusement, parce que par exemple avec les chouars de l'Équateur, ça se fait progressivement, ils s'installent, ils voient qu'il y a des petits pas justement dans le sol qui sont cernés, l'approche se fait progressivement, et ils savent bien qu'il faut faire comme ça. Ils ont pris leur temps, mais ils ont été accueillis, ils ont passé du temps à leur côté.
C'est vrai, ça paraît étonnant, toutes ces premières rencontres où les gens se toisent, quand ils essayent de rencontrer un chef de tribu, ils apportent quelques cadeaux, ils avaient ramené des objets quotidiens pour essayer de... bon, c'est aussi une tradition persane d'arriver avec beaucoup de cadeaux quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, mais on est surpris effectivement qu'ils arrivent à pénétrer petit à petit, à se faire oublier finalement et à participer à la vie du village. Parfois ils participent à des chasses. Donc ça sont des expériences absolument exceptionnelles. Hein. La chasse à la sarbacane avec des fléchettes empoisonnées au curare. Donc ils ont eu ce vécu absolument phénoménal. Même si, effectivement, on oscille toujours entre observation et puis tension. Et que finalement, ils quitteront l'Amazonie de façon un peu précipitée en se disant, voilà, là, il y a une alerte, il est temps de partir.
En parlant d'alerte, je rebondis là-dessus, c'est aussi ce qu'on ressent à la lecture de ce récit des frères Midvar à travers le monde, et notamment sur l'Amazonie, mais ailleurs aussi, sur le fait qu'ils nous alertent aussi de la réalité à travers toutes ces rencontres avec les peuples premiers, racines, souvent acculturés, victimes aussi d'accaparement de leurs terres ancestrales. Et on sent qu'ils ont compris déjà, dès les années 50-60, à quel point, de fait, les ressources sont en train de s'épuiser ou sont même pillées. Ils voient aussi et ils parlent, il y a des extraits comme ça sur les effrayants tracteurs qui déciment la jungle amazonienne. Donc il y a aussi une alerte presque écologique. On sent qu'ils ont conscience de cet ordre, justement, ce monde moderne qui est en train de, on va dire, se répandre et s'étendre jusque dans les coins les plus reculés du monde.
Oui.
Et ça, c'est assez, j'ai envie de dire, d'actualité finalement, alors que ce texte a, on va dire, plus de 60 ans.
Et en relisant effectivement ces passages-là, c'est étonnant comme ça nous éclaire sur notre monde d'aujourd'hui. Hein. Alors, on peut dire que la multiplicité des visites, surtout en Amérique, hein, l'Amérique latine, ou à la fois dans le nord de l'Amérique latine, il y a la surexploitation avec les fameuses plantations de bananes. Hein. C'est l'époque où on invente le terme république bananière, où l'Amazonie est déjà pillée, il y a une surexploitation du bois, ça les prend au trip, cette surexploitation de la nature, la destruction des peuples. C'est, effectivement, il y a un regard parfois dur et...
Lucide peut-être.
Lucide, j'allais dire pessimiste, mais lucide, oui.
Oui, parce que c'est un peu comme si aussi on voyait, puisque c'est sur 10 ans ce voyage, des adultes grandir, peut-être pas perdre leur illusion, mais en tout cas ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est.
C'est très clair. Ouais.
Allez, tout de suite, on va faire une courte pause musicale et là, on va ouvrir grand nos oreilles en écoutant Marjan Farsad. Cette chanteuse iranienne vit désormais à New York. Elle nous chante ici sa maison, soit Khunema en persan, si je le dis
exactement.
Bien.
Exactement.
Une ode à son pays d'origine, l'Iran.
Khunema, dure, dure, poshte kuha, ye sabure. پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ی ماست اون بر آب اون بر موجای بیتا پشت جنگل های سر پشت اقیا نوس آبی پشت باقا یه گلابی اون ور با قای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز بر دلتنگی ماست ته جاده های خیسه پشت بارون پشت دریاست
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
J'ouvre Guilleret, un carnet de voyage tout neuf. Nous voici donc, après seulement 3 mois de repos à Téhéran, prêts à reprendre notre bâton de pèlerin. Ou plus exactement, le volant de notre 2 chevaux Citroën qui nous accompagne depuis Paris. En fait, nous avons à peine eu le temps de défaire notre pactage et de nous remettre de nos émotions après 6 années à parcourir le monde. Nous avons quand même remis de l'ordre dans nos affaires, rangé les objets et souvenirs collectés et repris nos notes, tout ce que nous avions observé au contact des peuples premiers. Pas eu le temps de nous attacher à nouveau à la famille, aux amis, ni même de nous laisser bercer par tous les honneurs et réceptions qui nous sont réservés depuis notre retour. Nous repartons avant de trop réfléchir. Un nouveau défi est devant nous. L'Arabie d'abord, puis le mystérieux continent noir, riche d'une mosaïque de peuples ancestraux.
Assis loin, si proche, on continue de suivre le pas pressé des frères Omidvar, ces aventuriers iraniens partis dans les années 50 dans un grand tour du monde. À moto d'abord, puis après une courte pause en Iran, on vient de l'entendre dans un extrait de leur journal, en 2 chevaux, direction cette fois l'Afrique. Alors pour suivre ces 2 explorateurs pas banals et plutôt méconnus ici en France ou dans l'espace francophone, on est toujours en compagnie de Jean-Louis Osvat, un Français passionné d'Iran qui a décidé d'adapter leur journal de bord en français. Alors on vient de l'entendre, Jean-Louis Osvat, le désert, les pistes africaines maintenant attendent nos 2 comparses, donc en 2 chevaux maintenant, ce qui va forcément donner lieu, et on le suit dans le récit, à de grandes aventures. Si finalement on se rend compte, l'Afrique connue et perçue par beaucoup d'explorateurs comme étant la grande terre de l'aventure, et ben c'est ce qui va se passer pour eux, en particulier dans le désert par exemple.
Ça commence effectivement par une traversée du désert. Il rate probablement une piste. Il se retrouve ensablé. Assez vite, la situation devient catastrophique. Il y a une tempête. Ils ont plus d'eau. Et là, ils commencent à dire c'est la fin des aventures des frères Omidvar. Ils commencent même à écrire un journal en expliquant ce qu'ils ont fait, en se disant un jour, on nous retrouvera. Et puis de façon un petit peu miraculeuse.
Comme ça arrive souvent, je crois, dans le désert.
Oui. Oui, un peu un clin d'œil du destin. Ils vont être opérés par une méharée qui s'arrête, on leur redonne à boire, et puis ils vont reprendre petit à petit des forces et pouvoir continuer leur voyage, en l'occurrence vers la Mecque qui était la destination suivante.
Et alors la destination d'après, c'est l'Afrique noire, on va dire, à une époque, et ça il faut qu'on en parle, parce que dans le récit, ça vient vraiment irriguer et puis même modifier le voyage qu'ils comptaient faire. Ils arrivent dans une Afrique en pleine décolonisation. Donc on sent que tout ça va enrichir, pimenter peut-être aussi leur voyage, puis aussi compliquer. Ils sont finalement aux premières loges de tous les combats, en RDC notamment, en Angola aussi.
Oui, en Angola, où ils manquent de se faire prendre pour des Portugais, en fait. Des rebelles leur tirent même dessus. Ils échappent, encore une fois, avec leurs deux chevaux, ils arrivent à s'échapper, à reprendre la piste. Donc une Afrique qui est déstabilisée, ou des pays qui vivent une situation bien particulière, comme l'Afrique du Sud, hein, où ils voient de près l'apartheid, les conséquences de l'apartheid qui leur semblent terribles. Ils avaient été invités à l'université de Johannesburg pour donner une conférence, mais c'est un pays qu'ils détestent, clairement. Donc la remontée de l'Afrique va se faire comme ça, cas à cas, jusqu'à pouvoir quand même approcher un certain nombre de tribus. Ils rencontrent les Sara et bien sûr les Pygmées, où ils vont pouvoir passer plusieurs...
Donc au nord du Congo.
Au nord du Congo. Ils vont passer plusieurs semaines avec les Pygmées. On voit là que l'expérience accumulée, vous évoquez les aborigènes, le Grand Nord, l'Amazonie, voilà, ils arrivent à s'intégrer dans un village pygmée, même s'ils sont étonnés. Hein, ils gardent cette fraîcheur d'étonnement devant certains rituels, notamment le fait que chaque jour, quasiment, l'entrée des huttes et de la hutte du chef pivote pour tromper les esprits, pour éviter qu'un malheur s'abatte sur la communauté. Donc là aussi des observations vraiment étonnantes de la vie au quotidien d'une tribu pygmée qui survit dans les grandes forêts du nord du Congo.
Et puis ils font après un périple au Cameroun, au Nigeria, et trouvent finalement refuge au Sénégal, où ils écrivent « La décolonisation a été plus tranquille ». Et c'est vrai que pour revenir sur les décolonisations africaines, on lit et on sent que les frères Omidvar sont emballés et sont confiants même pour l'Afrique, dont ils louent finalement la modernité à venir, voire en chemin. Et en même temps, il y a cette idée aussi d'une histoire en marche qui les dépasse complètement. Ils se savent même, je ne sais pas si c'est dépassé, mais en tout cas, ils sont conscients, on peut dire ça comme ça, qu'ils sont eux-mêmes aux prises avec quelque chose qui les dépasse, c'est-à-dire la grande histoire. Ils disent à un moment, le jeu politique des nouveaux dirigeants, les frontières décidées par les Européens, la résurgence des tribus millénaires, que tout ça est enchevêtré et finalement va, bien sûr, déterminer à la fois le rapport qu'ils ont aux autres. Parce que certes, ils sont iraniens, ils ne sont pas du côté des colons européens. Et en même temps, ils ne savent pas où se situer.
Oui, dans le regard effectivement des gens qu'ils croisent, ils sont aussi exposés à la violence, hein, à la force des armes, à la brutalité de ceux qui portent un fusil. Ils vont se retrouver...
Ils vont d'ailleurs être armés, ce qu'ils n'étaient pas auparavant.
Tout à fait. Et ils vont se retrouver à un moment donné à arrêter. Ils vont réussir à s'enfuir... parce qu'ils ne voyaient plus d'issue. Ils sentaient que là, il n'y avait pas moyen de négocier. Jusqu'au moment où ils vont se retrouver même en Algérie, arrêtés brièvement par les rebelles du FLN. Là aussi, toujours suspectés peut-être des espions à la solde des Français, où on se demandant, mais que faites-vous là ?
Hein, donc c'est là qu'on perçoit aussi la naïveté parfois des voyageurs qui se disent, et très sincèrement, les frères Omidvar étaient là-dedans, dans cette volonté de vouloir rencontrer l'autre. Sauf que finalement, là, c'était pas le moment. C'est difficile de rencontrer l'autre dans un terrain de guerre.
Oui, quand il est armé, quand il a autre chose en tête et que l'urgence du moment, c'est pas effectivement le dialogue ou la rencontre.
Alors finalement, après 2 ans, voire 3 ans de voyage en Afrique, les deux frères vont rentrer en Iran, en héros. Mais Abdullah, lui, va repartir presque aussi sec, on va dire, direction le Chili. Et alors pour une toute autre aventure cette fois. Alors, amoureuse, il faut le dire.
Oui, exactement. Donc c'est un peu curieux. Je pense qu'encore... Pour Issa, ça a été un moment difficile parce que 10 ans avec son frère, ils avaient une véritable symbiose.
Une fraternité totale.
Totale. Total. Et Issa était prêt à continuer à voyager. Il va continuer, lui, à voyager. Il va retourner en Inde, il va retourner en Afrique. Mais pour Abdullah, non. Il s'est passé quelque chose en chemin. Lors d'une conférence qu'il donnait à Santiago du Chili, à l'université américaine.
Donc en 59.
Donc, exactement. Il donne une conférence où ils expliquent la vie des Inuits. Ils montrent leurs films, leurs documentaires. Et à la fin de la conférence, une jeune étudiante s'approche, Louisa, et dit au Abdullah, c'est formidable, moi je fais une thèse sur la vie des peuples de l'Arctique. Est-ce qu'on peut correspondre? Est-ce que je peux vous demander des informations, etc. Et va s'engager une correspondance. Alors à l'époque, hein, c'est la complexité de la communication, mais aussi la magie des sentiments amoureux, c'est qu'ils vont réussir à garder ce lien à travers des lettres laissées post-restantes. Hein. Ils communiquent au fur et à mesure leur trajet en Argentine, à Buenos Aires, en Uruguay, au Brésil. Et petit à petit, cette correspondance va se développer entre Abdullah et Louisa. Au retour du voyage d'Afrique, donc Abdullah propose à Louisa de le rejoindre à Téhéran.
Finalement, c'est lui qui va aller au Chili.
C'est la belle-mère qui dit pourquoi pas, mais il faudra venir au Chili. Et Abdullah va démarrer une nouvelle vie. Passionné de cinéma, de technique, il va monter un studio de production à Santiago du Chili. Il va animer des émissions de télévision sous le nom Les Mille et Une Vies d'Abdullah, où il va faire des reportages. Il va participer à une expédition scientifique en Antarctique. Donc il va entamer cette deuxième vie à un tel point que, au début d'année, le journal El Mercurio de Santiago du Chili l'a désigné parmi les 100 personnalités qui ont fait le Chili. Voilà, juste avant son décès en juillet dernier.
Sachant que vous, Jean-Louis Osvat, vous êtes aussi allé rencontrer au Chili Abdullah. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, pour finir cette émission, qu'on l'écoute dans une interview accordée à la chaîne en ligne Soy Tribu.
Viajar, viajar y viajar.
Voyager, voyager et voyager. C'est mieux de connaître le monde plutôt que de le consommer. Parce qu'il y a différents types d'individus. Il y a ceux qui, depuis leur naissance, vont de la maison au travail, du travail à la maison, de la maison au bowling, et vice-versa. Ces gens-là consomment le monde. Les autres, ils deviennent cyclistes, motards, et décident de voyager en toute liberté. La liberté, c'est tout pour l'être humain. Et à moto, c'est exactement ça. On se sent tellement libre, comme si on avait deux ailes et que l'on volait. Mais nous, on n'a jamais voulu être deux voyageurs égoïstes. On a toujours voulu enregistrer, collecter, pour partager avec le reste de l'humanité.
Jean-Louis Osvat, en conclusion, c'est ça finalement le message que laissent les frères Omidvar, c'est saisissez votre liberté, partagez peut-être d'une certaine manière, faites bon usage de votre liberté. Est-ce que ce serait ça?
Oui, Issa dit, si vous regardez un stylo, c'est un objet sans vie, eh bien prenez-le, commencez à écrire, et là il va se passer quelque chose de complètement différent. C'est vraiment le message qu'ils ont porté tous les deux.
Oui, parce qu'il y a cette idée, justement, à la fois de célébrer la beauté du monde, mais aussi sa diversité. Et c'est vrai qu'à leur manière, dans un temps effectivement passé, où les données étaient différentes, mais il y a quand même cette idée aussi d'approcher le monde différemment, de prendre le temps, de rencontrer l'autre, de célébrer aussi la diversité à la fois naturelle et culturelle. Il y a de ça aussi dans leur démarche.
Oui. Qui est résumé typiquement dans leur devise. C'est vrai qu'on est tous différents et c'est une richesse incroyable. Hein. Ce que Lévi-Strauss appelle les fleurs fragiles hein, de la différence, il y a ça. Et puis en même temps, voilà, on est dans cette même famille, dans cette fraternité.
Donc on en revient au fameux garde-boue de la moto, oui. Tous différents, tous frères.
À les découvrir à Téhéran sans faute, oui.
Très bien. Au musée, justement.
Au musée.
Le fameux musée des frères Omidvar.
Qui a ouvert en 2004 et qui a été bien, bien rénové. Et c'est un endroit voilà, délicieux à visiter absolument.
Merci Jean-Louis Osvath.
Merci.
Merci pour le voyage. Et je rappelle le titre paru en français donc, aux éditions Nivikata du livre que vous avez adapté, du récit des frères Omidvar. Le voyage des frères Omidvar. Un livre richement illustré qui fait aussi terriblement voyager. Et je précise, vous me l'avez dit, que ce n'est pas seulement les éditions Nivikata, mais c'est aussi les éditions Elitis. Laure Allary, Céline Develay-Mazurel, on vous salue chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même planète. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter, réécouter aussi en podcast sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine.